Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, de plus en plus d'initiatives dans les EHPAD pour supporter le confinement.
Depuis un mois, des centaines de milliers de familles en France sont privées de contact direct avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. En attendant les grandes retrouvailles, des établissements tentent d'innover, comme ici près de Saint-Étienne, à Roche-la-Molière, où une sorte de parloir a été aménagé au garage. Une vitre sépare les échanges, limitée à 20 minutes. Le reportage de Frédéric Perruche.
Le volet du garage s'ouvre et Jean-Luc revoit enfin sa maman placée derrière la paroi vitrée sur une chaise face à lui.
Bonjour maman, comment ça va ?
Jean-Luc n'avait pas vu sa mère depuis un mois et ce matin il vient lui parler d'une intervention bénigne qu'elle doit subir prochainement et la rassurer.
Ils vont te soulager un petit peu ce problème de sonde. Tu pourras vivre normalement, tu pourras avaler normalement, tu ne vas pas souffrir du tout. Tu vois, tout va aller bien. C'est difficile mais... On va tenir le coup, maman, tu verras, d'accord ?
La rencontre dure un gros quart d'heure, essentiel pour tous les deux.
On voit l'isolement hein, des personnes âgées quand même. Hein. Quand on y touche de près, on s'aperçoit que c'est pas facile pour elles. C'est pas facile pour elles. Faut pas que le lien soit coupé et c'est pour ça. Moi, je viens de Haute-Loire et le téléphone, ça fait pas tout en fait. Y a pas les émotions sur le téléphone. Je t'embrasse, maman, hein ? À bientôt ! On essaye de la soutenir au maximum, mais quand même, il manque le contact. On ne peut pas lui faire le petit bisou, quoi. Il y a la vitre en plus. Ben, bien sûr, c'est beaucoup d'émotions. On essaye de la soutenir au maximum, mais ce n'est pas facile.
Depuis une semaine, la plupart des 92 résidents ont revu un membre de leur famille grâce à ce parloir aménagé dans ce garage. De quoi mieux supporter ce très long confinement qui s'annonce.
Reportage de Frédéric Perruche sur RTL. Le patron de l'association des directeurs au service des personnes âgées affirme ce matin qu'il est tout à fait possible, hein, maintenant que les tests se généralisent dans les EHPAD, d'organiser des visites en mettant en place des mesures de protection. Et puis vous avez été très ému hier par le témoignage d'Edwige, cette retraitée du Tarn verbalisée par les gendarmes pour avoir rendu visite à son mari en EHPAD, mais en restant derrière une porte-fenêtre. Un auditeur boulanger à Besançon a proposé tout à l'heure à l'antenne de payer ce fameux PV, soit la somme de 135 euros.
8h02, les personnes âgées confinées plus longtemps que les plus jeunes.
Avec une rentrée scolaire progressive annoncée pour le 11 mai, un choix qui a fait bondir plusieurs syndicats enseignants qui jugent cette date beaucoup trop prématurée. Emmanuel Macron en est parfaitement conscient. D'après des confidences faites en privé, le chef de l'État, Vincent Derosier, a de son propre aveu voulu présenter le verre plutôt à moitié plein.
Oui, en privé, Emmanuel Macron reconnaît qu'il prend un risque en évoquant cette date du 11 mai, date qu'il a choisie d'après son entourage pour des raisons psychologiques. Pas question de ruiner le moral des Français en laissant entendre qu'ils n'auront pas de vacances d'été. Si on leur dit « il y aura du sang et des larmes », les Français n'y croiront plus, raconte un proche. Le président se laisse quand même une porte de sortie s'il y a du relâchement. Le calendrier sera bien sûr aménagé. D'ailleurs, tout reste à construire pour la suite. Emmanuel Macron ne croit pas à un déconfinement par région, infaisable selon lui en France. Par classe d'âge non plus. Avec cette allocution, Emmanuel Macron a surtout voulu montrer qu'il avait lui aussi des doutes et qu'il ne savait pas répondre à tout, confie son entourage. Manière aussi de rompre avec son image de président arrogant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il veut lancer une grande consultation dans les semaines à venir avec les forces politiques, les syndicats, les patrons, les associations, mais aussi les ONG. Emmanuel Macron veut ressouder le pays autour d'un grand projet et surtout éviter les divisions. Et pour ça, il sait qu'il ne peut plus décider tout seul.
Les informations RTL de Vincent Derosier.
8h04, on en vient à présent à cette déclaration pour le moins surprenante du professeur Didier Raoult.
Le promoteur du traitement à la chloroquine pour soigner le coronavirus et auquel a rendu visite Emmanuel Macron la semaine dernière à Marseille annonce sur sa chaîne YouTube la fin de l'épidémie. Et il se base sur la baisse du nombre de cas constatés chez lui à l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée. Je vous propose de l'écouter.
Alors, l'évolution de l'épidémie, comme vous la verrez, pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Et donc, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc, il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps.
Il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Quel crédit peut-on accorder à ces propos ? On peut dire ça ?
crédit limité, grande prudence, grand agacement, selon les spécialistes joints par RTL ce matin avec ce mot « disparition ». La conclusion du professeur Raoult est largement prématurée. Oui, c'est vrai, ça baisse, comme ailleurs, moins de cas dans le Sud, confirme d'ailleurs ce matin l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis quelques jours, nous assistons à une diminution de la progression de l'épidémie, mais pas à une régression. Les mots ont leur importance. Moins de nouveaux cas aussi et d'hospitalisation au niveau national depuis le 6 avril. On le sait, le professeur Raoult a dépisté massivement dans sa ville. Il a donné de la chloroquine aux patients atteints du Covid-19, persuadé que ce médicament est efficace et qui permet aujourd'hui de faire disparaître le virus. Un mot que les spécialistes interrogés par RTL ce matin ne veulent pas employer. Il ne faut surtout pas crier victoire trop tôt. Cette baisse est due à l'effet du confinement à Marseille comme ailleurs. La dynamique est à la baisse. Mais le virus est loin d'être en train de disparaître. Il circule moins. Regardons ce qui s'est passé à Singapour. L'épidémie est repartie parce qu'on a levé le couvercle trop tôt, si l'on peut dire. Il a fallu le refermer aussi vite. Le risque de ce genre de déclaration est de créer du relâchement, de décomplexer les Français qui risqueraient de ressortir sans raison. Le confinement doit être respecté au risque de voir arriver une deuxième vague. Ce spécialiste conclut un brin agacé qu'en janvier dernier, le même professeur Raoult affirmait qu'il n'y avait pas d'épidémie.
Merci Sophie Orange. Eh bien justement, on va réécouter ce que disait ce 23 janvier ce même professeur Didier Raoult sur cette même chaîne YouTube au sujet de l'épidémie qui était alors plutôt confinée en Chine.
Le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a trois Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou.
Tout ça est fou, disait en janvier donc le professeur Didier Raoult. Le Conseil des ministres examine ce matin de nouvelles aides pour les entreprises et le secteur du tourisme frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Le budget 2020 va être rectifié pour la deuxième fois en 10 jours. Les ventes du commerce de détail en France ont chuté de 24% en un mois, d'après la Banque de France. Amazon condamné à réduire la voilure. Seules les livraisons de première nécessité sont autorisées pour un mois. La justice a donné raison au syndicat Sud qui a estimé que les salariés n'étaient pas assez protégés. Mais Amazon, bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Amazon n'est pas la seule entreprise à se faire tirer l'oreille.
Oui, à ce jour, selon nos informations, ce sont plusieurs centaines de courriers d'observation après inspection du travail qui ont été envoyés à des entreprises pas complètement en règle. Courriers d'observation pour rappeler qu'il ne faut pas transiger sur les gestes barrières, par exemple, ou qu'il faut bien penser à remplir les flacons de gel hydroalcoolique dans les entreprises, qu'il oublie parfois. Plus grave, la Direction générale du travail recense à l'heure actuelle 25 mises en demeure d'entreprises pour imposer le respect des règles au plus vite, sous moins d'une semaine dans des entreprises de l'industrie, de la logistique ou dans des commerces alimentaires. Reste pour deux entreprises, deux actions directement en justice. Les inspecteurs du travail ont saisi un juge en urgence pour faire cesser la mise en danger des salariés d'une entreprise de service à la personne et d'un supermarché. Dans la plupart des cas, il faut noter que des améliorations rapides ont été constatées pour les salariés.
Les infos d'Anaïs Bouissou pour RTL. Et puis il y a les grandes marques qui font l'actualité en cette période, presque malgré elles. Un ancien McDo des quartiers nord de Marseille, fermé en décembre dernier, a été transformé par d'ex-salariés en centrale de distribution de nourriture pour les plus précaires. L'un de ces anciens salariés est au micro de Hugo Hamelin.
C'est à la fois un mélange de McDo et d'Emmaüs. Donc sur les tables, on a mis en place des paniers pour une famille de 4 personnes. Alors dedans, on a 2 litres de lait, on a 2 kilos de riz, on a 2 kilos de pâtes. La difficulté, c'est quoi? C'est que ce coronavirus met à nu la société. Là, en temps normal, ce sont des familles qui sortaient la tête à peine de l'eau. Mais là, la vague est venue et elle les a submergés. En période de guerre, on pensait que tout le monde devait apporter sa pierre à l'édifice et on constate que McDo ne le fait pas. Alors du coup, comme on est en guerre, on a appliqué une réquisition citoyenne.
Un ancien du McDo de Marseille réquisitionné pour aider les plus fragiles. Extrait du reportage d'Hugo Hamelin que vous pourrez entendre dans son intégralité sur RTL à 8h40. Pour l'instant, il est 8h09 et ça chauffe entre Paris et Pékin.
La crise du coronavirus fait monter la température entre la France et la Chine. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
L'ambassadeur de Chine en France a été convoqué, on l'a appris hier soir, convoqué par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui lui reproche des propos assez limites sur notre façon de gérer la crise.
Oui, Jean-Yves Le Drian n'a pas apprécié effectivement certains certains propos de l'ambassadeur Louchaï. Dans l'un de ses tweets, par exemple, il accusait, sans dire ni où ni quand, des personnels soignants français d'avoir abandonné leur poste du jour au lendemain dans des EHPAD, laissant leurs pensionnaires mourir de faim et de maladie. Il écrivait un peu plus tard que ses commentaires ne visaient pas la France, mais poursuivait en trouvant qu'on avait été bien léger quand même en matière de confinement. Au-delà de ces attaques, la Chine tente de faire oublier sa propre gestion de la crise du corona, en particulier à ses débuts. On se souvient qu'un médecin, lanceur d'alerte, avait eu des ennuis avec les autorités de Wuhan. Le malheureux est finalement mort lui-même du virus. Depuis, Pékin voudrait faire croire qu'elle a eu une gestion exemplaire de la crise et qu'elle est un modèle politique. Et pour convaincre, la Chine use de la diplomatie sanitaire. Elle envoie partout dans le monde du personnel médical. Elle fabrique et livre des tonnes et des tonnes de masques qui manquent un peu partout. Une solidarité bienvenue, bien sûr, mais qui oublie qu'au début de la crise, c'est l'Europe qui envoyait du matériel médical à Wuhan. Et puis surtout, on se demande si cette formidable gestion à la chinoise ne cache pas en fait le nombre réel des victimes du corona en Chine.
Merci Christophe Decroix, chef du service étranger à RTL. Les relations se dégradent aussi entre Washington et Pékin, puisque Donald Trump accuse depuis plusieurs jours l'OMS d'être trop proche des intérêts chinois et d'avoir minoré la pandémie. Le locataire de la Maison-Blanche a annoncé la suspension des fonds américains alloués à l'OMS, soit 400 millions de dollars par an. Le bilan des morts qui a atteint un nouveau record aux États-Unis, plus de 2200 décès en 24 heures. En France, le Tour, sauf sa peau, le Tour de France, décalé de 2 mois, il devrait partir de Nice le 29 août, arrivée prévue sur les Champs-Élysées le 20 septembre. Ce calendrier exceptionnel doit être entériné aujourd'hui par les organisateurs.
On termine avec l'image du jour.
Au Brésil, la guérison spectaculaire du coronavirus d'un ancien militaire de 99 ans. Après avoir passé 8 jours à l'hôpital, il est sorti sur un fauteuil roulant, sous les trompettes et sous les applaudissements. Voilà, encore une bataille qu'il a remportée.
Je croyais que c'était lui qui jouait de la trompette, j'allais dire quand même là. Alors...